ça part bien le matin.
Une présentation de la Caisse des Jardins Ontario. Dans l'Est ontarien.
Dans l'Est ontarien.
Ça part bien le matin.
Ça part bien le matin.
Jusqu'à 9h.
Go FM!
Et 7h08, mercredi, on est le 1er mai aujourd'hui. Mon nom, c'est Mathieu Manning. Bon début de journée, l'Est ontarien. En avant de moi, Gab, tu es salué.
Salut, Mathieu.
Et de la visite ce matin, le député provincial de Glengarry, Prescott et Russell, Stéphane Sarrazin. Vous êtes salué, Monsieur Sarrazin.
Et bon matin, messieurs.
Comment est-ce qu'il va?
Écoute, ça va super bien. On arrive, je dirais quelques semaines passées, on semblait être arrivé en été, mais là, avec la température, on dirait autrement. Mais c'est le fun de voir que les activités commencent, on pourra courroyer les événements, puis ça va être vraiment intéressant. On a une belle été en avant de nous.
Vous allez être occupé. La chambre, le Queen's Park, ça ferme. Quand est-ce qu'on ferme?
Deuxième semaine de juin.
Deuxième semaine de juin, ça sera votre congé, entre guillemets, d'été. Ouais, tout le monde retourne dans sa circonscription puis participe à mille et une activités. On sait que vous êtes pas mal occupé l'été. Vous êtes en vacances de Queen's Park, entre guillemets, mais pas vraiment en vacances sur le terrain, évidemment. C'est temps de retourner à vos bureaux. Plein de choses à jaser ce matin, évidemment. L'actualité manque pas. Bon, depuis votre dernière visite, on a eu un budget provincial. Vraiment? On a eu un budget fédéral.
Et voilà.
J'imagine que tu as beaucoup de choses à dire. Plein de choses qui sont arrivées. On pourrait commencer à jaser, justement, faire peut-être le retour sur les deux budgets. Donc, le budget provincial et le budget fédéral. Donc, au niveau de la province, un peu comme ce qu'on prévoyait, évidemment, le déficit a augmenté, conformément à ce qu'on a vu ailleurs au pays. Et au fédéral lui-même, mais également pour le rattrapage des salaires.
Absolument, absolument. Puis je pense que dans notre budget cette année, qu'est-ce qu'on a misé dessus? C'est vraiment l'investissement dans les infrastructures. Parce qu'on sait que si on veut de la croissance, autant résidentielle qu'économique, on doit investir parce que toutes les municipalités ont le même défi. Donc, ils ont de la croissance résidentielle, mais les infrastructures sont pas toutes en place pour justement rencontrer ces défis-là. Donc, nous, en tant que gouvernement, on a décidé de vraiment investir dans les infrastructures, que ce soit routier, plus ou moins beaucoup de subventions qui sont offertes pour les eaux et les égouts. Pour les municipalités, on le sait, toutes sont toutes dans le même bateau. Bien, je dis toutes à 90 % ici. Parle de Castleman, on parle des petites municipalités alentour. Ils ne peuvent pas continuer avec la croissance à cause
de ça. C'est là où j'allais, en fait. C'est parce que, d'une part, vous poussez vraiment, puis je dis vous, mais le parti, le Doug Ford, le Parti progressiste conservateur, mon Dieu. Excusez, je l'avais au bout de la langue. Vous poussez beaucoup la construction domiciliaire, la construction tout court. Même temps, ça vient avec le fait qu'à un moment donné, chacune des municipalités qui veut mettre, elle, la pédale au plancher, ça doit suivre les infrastructures, évidemment. On peut pas doubler la population avec la même usine de filtration des eaux, par exemple. À un moment donné, il faut rajouter de la capacité, puis pour ça, ben, ça a des coûts. Les coûts, d'habitude, sont assez...
aujourd'hui, tu ne seras pas loin que des millions de dollars.
Déjà, ouais, des millions de dollars aujourd'hui, ouais, tu parles le coin d'une rue. Là.
Exactement. Déjà, là, tu es allé loin que des millions de dollars. Aujourd'hui, on parle plus des milliards. Mais écoute, je pense que c'est important d'investir. Parce que, tu sais, nous, quand on a cogné aux portes aux élections, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est le coût de la vie qui était la priorité. On doit faire quelque chose pour rendre ça plus abordable pour les Ontariens. Puis c'est sûr qu'en bâtissant plus de logements, en ayant plus de logements accessibles, bien là, ça va baisser puis ça va stabiliser peut-être un peu le coût de louer des appartements ou de l'achat. Puis je pense que ça fait partie de pouvoir offrir aux municipalités de l'argent, justement, pour pouvoir bâtir les infrastructures nécessaires pour la croissance, je pense que c'est vraiment une priorité. Puis, tu sais, ça demeure la priorité des gens avant les élections.
C'est parce que c'est tout lié à l'offre et la demande. Évidemment, on comprend que si le marché...
Exact.
Et si le marché est inondé de demandes et l'offre ne suit pas cette demande-là. Évidemment, quand tu regardes l'Ontario, tu regardes le GTA. Et puis même la région d'Ottawa, en fait, tu regardes ouais. ces régions-là, puis localement ici, entre autres, tu as deux régions championnes du développement, de la croissance de la population en un recensement, Rockland et la municipalité de Russell, qui a vu des augmentations de 15 et 18 % à mon souvenir. On est-tu même dans les 20? Dans ces eaux-là, à peu près une vingtaine de pourcents de croissance de population en un recensement. Évidemment, il faut que l'offre de logement... Et logement, oui, ça peut être du locatif, mais ça peut être des maisons aussi. Là. Ça peut prendre plusieurs formes, mais il faut que ça suive. Évidemment, si tu veux garder la même balance entre ton revenu et le coût de ton immobilier, évidemment, si tout le monde se garoche puis il y a juste une chose de disponible, ben, évidemment, la personne qui la vend, il va pouvoir, pouvoir la vendre au prix qu'il veut, finalement. Donc, c'est de rétablir un équilibre. Parlant de ça, un peu d'équilibre, je sais que vous n'êtes pas tant... Parce que si on regarde, entre autres, l'approche, évidemment, on n'est pas encore en élection, mais il a l'air de vouloir aller dans ce côté-là. M. Poiliev, du côté fédéral, qui, lui, a l'air de vouloir plus axer sa politique, justement, de construction domiciliaire sur une façon, disons, il y a la carotte et le bâton. Lui, il va plus dans le bâton en disant aux municipalités que sa vision à lui, c'est de couper... les subventions fédérales pour ceux qui n'atteignent pas les objectifs. De votre côté, vous, vous avez plus dans carotte, donc de donner des incitatifs, de donner des bonus finalement aux municipalités qui atteignent leurs différents objectifs. Puis on l'a vu, il y a un mois ou deux, vous avez donné des bonus à plusieurs municipalités ontariennes, entre autres, je regardais Barry, tout ça. Mmh. Quand on regarde localement, et justement, ça donne que c'est dans les nouvelles à matin, sur, entre autres, un des projets avant Click Hill. Où il y a eu un levier de bouclier citoyen pour un projet d'une qui a retiré probablement 200, 300, 400 résidents, 500, mettons, si on regarde le fait qu'on peut être plusieurs dans une habitation. Dans un secteur de Van Click Hill, les citoyens se sont inquiétés justement de cet ajout de population-là. Au niveau de la municipalité aussi, on est inquiet du fait qu'on va ajouter beaucoup de monde en peu de temps. Et ça a été les raisons principales pour lesquelles on a évoqué le refus d'aller de l'avant avec ce projet-là. Quand tu lis ça, ce genre de nouvelles-là, je suis curieux un peu de voir ta réaction.
Bien, il faut dire que les élus, on est là pour être la voix des gens. Oui. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'élu, si tu as 2000 personnes ou 500 personnes qui viennent te voir et ils disent « Moi, je pense pas que ce projet-là, c'est un bon projet », pour le petit village de Van-Click Hill ou de Lornal, vice-versa. Donc, tu n'as pas le choix de les écouter puis de dire, OK, je dois les défendre parce que c'est eux qui m'ont mis ici pour les représenter. Encore là, par contre, on est tout un peu pareil quand ça vient à du développement. On veut du développement, mais on ne veut pas l'avoir en arrière de chez nous, puis on ne veut pas l'avoir voisin de chez nous. Puis des fois, ben, faut se dire, écoute, si on en veut du développement, si on veut justement rendre ça plus abordable, ben, des fois, faut sacrifier un peu. Puis je comprends que ça change la démographie. Tu sais, si on bâtit des unités en ligne à côté d'un quartier résidentiel ou ce que c'est des maisons ordinaires. Donc, ça peut changer. Donc, les gens, ils ont peut-être raison de s'inquiéter un peu, mais en même temps, on n'a pas le choix. Il faut bâtir, puis il faut trouver toutes sortes de solutions.
Mais j'allais dire, ce genre de position-là, elle n'est pas un peu contre-productive à ce que vous tentez de faire. Et surtout, ultimement, ma question étant... allez-vous sévir ou vous allez garder le statu quo? Par exemple, si on voit que vos objectifs ne sont pas atteints et que vous avez des municipalités comme ça, est-ce que vous avez quelque chose en tête pour l'instant ou vous laissez le libre cours?
Je pense pas qu'on va sévir, mais je pense que plus on va encourager ceux justement qui atteignent leur cible. Puis on l'a vu, là, tu sais, les municipalités qui avaient dit « Nous, on s'engage à bâtir X nombre de maisons d'ici les prochains 10 ans ». Puis eux, ils ont déjà devancé, parce que c'est un plan annuel.
Oui, évidemment.
Eux autres, ils ont vraiment eu du bonus pour dire, OK, vous faites une bonne job, continuez. Écoute, chez nous, ici, dans nos petites municipalités, c'est sûr qu'il n'y avait pas de cible qui avait été, parce que on aurait fallu que ça soit fait à base de comté, parce que chaque municipalité... donc, ça s'applique même, mais il y a quand même une enveloppe d'argent pour les petites municipalités qui ne faisaient pas partie de ces programmes-là. Il y a quand même une enveloppe d'argent qui est pour les encourager. Puis il y a aussi plein de possibilités d'appliquer pour des subventions, justement, pour toute...
Donc, finalement, c'est vraiment de dire, oh, regardez vos voisins, regarder les autres. Puis si ça vous tente, vous aussi, d'embarquer, il y a vraiment un je ne veux pas dire un cadeau, là, mais il y a vraiment des incitatifs qui sont mis en place, puis prêchés plus par l'exemple que par la répression, par exemple.
Exactement. Les incitatifs sont bons, puis nous, on veut travailler à ce que, justement, il y ait... Puis c'est les mêmes choses pour... tu sais, parce que là, on parlait de budget tantôt, on disait qu'on n'a pas eu d'augmentation de taxes. Le gouvernement ne croit pas en augmentant les taxes, mais croit à créer un environnement excellent pour le développement économique. Donc, plus d'entreprises veut dire plus d'argent. Puis on le voit là, avec toutes les entreprises et les grosses compagnies manufacturières. Là, on a vu l'annonce d'Honda.
Oui, on va en parler de ça parce que c'est un énorme sujet.
Absolument.
Puis on va y aller avec une petite chanson. I don't care, Ed Sheeran, Justin Bieber. Puis après ça, je vais jaser un peu de l'autre politique un peu. Et voir comment les deux s'agencent au niveau fédéral, ce qui a été annoncé il y a deux semaines, puis toutes sortes d'autres choses aussi, entre autres les investissements du nouveau manufacturier. Puis tu m'as dit, tu as des nouvelles fonctions, donc on va jaser de tout ça aussi d'ici les prochaines minutes. Bon début de journée, l'Est ontarien, on est en direct ce matin avec notre député provincial de Glengarry, Prescott et Russell, M. Sarrazin, ce matin.
Le show du matin le plus imprévisible.
Ça part avec nous.
Jusqu'à 9h.
Ça part bien le matin.
Bon! Ça part bien le matin ici à GoFM. Un excellent début de journée. Invité spécial aujourd'hui. C'est la chance pour vous de savoir un peu ce qu'il fait, ce qu'il pense et comment il vous représente à Queen's Park. Stéphane Sarrazin, député provincial de Glengarry, Prescott et Russell. Monsieur Sarrazin, un peu, ça, c'est deux semaines maintenant que ça a été publié, qui a quand même reçu un certain appui de votre gouvernement, un peu le budget fédéral.
Absolument.
Vos impressions?
Ben, je pense que, écoute, plus que jamais, l'Ontario devient un endroit pour prospérer pour les entreprises, puis on le voit, je pense qu'on est sur la bonne piste. Souvent, notre premier ministre dit qu'il entend de ses collègues, quand ils voyagent à travers des États-Unis, qui disent qu'on joue dans leur plate-bande tellement qu'on va chercher des investissements importants de partout dans le monde, des entreprises. Je pense qu'on fait... quand ça vient à développer l'économie en Ontario, vraiment, on a beaucoup de nos députés qui sont des entrepreneurs, puis qui se disent que c'est important, la croissance économique. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de monter les taxes, c'est d'avoir plus de revenus de ces grosses compagnies-là qui viennent s'installer. Puis nous, notre job, c'est de créer le meilleur environnement possible. On le sait, avec l'électricité qu'on produit maintenant avec le nucléaire, toutes ces compagnies-là ont comme un genre de bulletin, comme qu'on allait à l'école, là. Puis c'est tous des points forts pour eux de dire est-ce qu'on s'en va aux États ou est-ce que l'électricité est produite par le charbon ou on s'en va en Ontario où est-ce que l'électricité est considérée des 90% propre avec vraiment basse émission de gaz à effet de serre. Donc, je pense qu'on a la bonne formule, puis on continue d'attirer des entreprises. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va venir à bout de baisser le coût de la vie.
Je parle de secteur manufacturier, mais une des grosses annonces la semaine passée, c'était Honda.
Absolument, 15 milliards. Puis 15 milliards, tu sais, les gens disent souvent « Pourquoi que mon argent est investi dans Honda? » Bien, c'est pas leur argent qui est investi dans Honda. C'est des rabais d'impôts. C'est tout simplement, on donne un genre de tax incentives. Donc, on va dire à la compagnie, tu vas être X nombre d'années, tes impôts, tu n'auras pas besoin de les payer. Donc, cet argent-là, ils l'investissent dans... Puis,
c'est ça. Question par rapport à ça, justement, parce que je voyais, entre autres, la Fédération canadienne des contribuables. Dénoncer un peu cette iniquité-là, puis aussi la Fédération de l'entreprise indépendante, qui les deux pointaient sur justement un côté qui est peut-être... Certains voient ça avec un peu d'injustice, le fait que eux, leur petite ou leur moyenne entreprise, ben justement, ils doivent payer leurs taxes, ils n'ont pas accès à ces crédits d'impôt-là. Ils vont un peu plus loin du côté de la Fédération canadienne des contribuables en disant que c'est finalement les contribuables qui subventionnent des multinationales. La réponse que vous avez pour ces affirmations-là?
Bien, la réponse que j'ai, c'est pas le cas. Il faut comprendre, si on regarde, là, on prend l'exemple de l'usine d'Honda, où est-ce qu'ils vont créer quelques mille emplois. Mais on parle de quelques mille emplois à l'usine, mais comment est-ce qu'on parle d'emplois pour tous les petits contracteurs de la région d'Alliston, que ce soit les électriciens, les soudeurs, ils vont tous être impliqués. Donc, ça va peut-être créer indirectement 6-7 000 emplois. Puis ces petites business-là, locales, vont bénéficier de ça. Puis écoute, si un exemple, Honda n'aurait pas venu s'installer à Alliston, ils sont déjà à Alliston, mais s'ils auraient amené leur investissement ailleurs, on n'aurait pas eu ces impôts-là éventuellement. Là, on leur donne un genre de break. Mm-hmm. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est dans 5-10 ans, on va avoir ces gros revenus-là qui vont rentrer. Puis si on aurait dit non, on les aurait jamais eu, ces investissements-là là, qui auraient
donc,
rentré.
Donc, c'est un retour sur l'investissement.
Absolument. C'est comme l'entreprise qui investit à long terme. Bien, nous, l'Ontario, on veut se placer pour justement devenir une puissance économique. Puis écoute, on sait tous que des jobs comme ceux-là, c'est pas des jobs au salaire minimum.
Non.
Donc,
non.
C'est important, tu sais, on dit de créer des bons emplois, mais des emplois payants pour les Ontariens. Donc, c'est ça notre but numéro un.
D'ailleurs, dans une région, justement, qui est aux prises avec des coûts d'immobilier de plus en plus élevés, évidemment, là, tout ce corridor-là, tout ce qui se trouve à quoi? Un rayon de 400-500 km de Toronto, c'est comme une maladie qui se propage au niveau du coût de l'immobilier. Donc, c'est sûr qu'il y a des emplois qui sont payants. Ben,
absolument.
Puis, ça aide aux gens à arriver à la fin du mois, là.
C'est vraiment intéressant de voir notre stratégie de développement économique. Puis d'ailleurs, mes nouvelles fonctions, là, je suis avec maintenant le ministère du développement économique. Je suis l'adjoint parlementaire de la ministre associée aux petites entreprises, puis aussi adjoint parlementaire de la ministre des Affaires francophones. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que notre ministre, le bureau du ministre, nous demande à toutes les municipalités, à toutes les circonscriptions, est-ce que vous avez des terrains? Puis nous, on identifie des terrains qui sont disponibles pour justement le secteur manufacturier. Donc, on est vraiment prête. Puis quand il arrive une compagnie qui veut s'installer en Ontario, puis souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans d'autres provinces. Ils vont dire, hey, écoute, ben, on est intéressé.
Je vais renchérir, là, mais pour Honda, entre autres, c'était entre le Québec et l'Ontario. Puis là, elle faisait les deux balles, tu sais. Puis, donc, le Québec aurait finalement pu avoir cette usine-là aussi. Finalement, on ne s'est pas entendu, puis bon, ça donnait bien à Alliston, mais ceci étant dit, non, c'est ça. À ce moment, le gros compétiteur, j'imagine que ça doit être le Québec, parce qu'il est taxé lui aussi là-dessus. Là. D'ailleurs, en train de dire, nous, l'Ontario, on veut les rattraper. Là.
Ben écoute, le Québec, les États-Unis, tous les États, là, puis eux, ils ont vraiment des fonds pour justement offrir à ces entrepreneurs-là. Tu sais, moi, je me rappelle, on avait des entreprises à l'époque qui étaient d'ici, qui allaient aux États, puis ils payaient pour le bâtiment, puis il y avait vraiment des programmes en place pour favoriser les entreprises à aller aux États. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec les conditions que nous, on a en Ontario, tu sais, comme je disais, l'électricité qu'on est venu à bout de garder à des taux abordables, puis notre façon qu'on gère tout ça, je pense que aussi la stabilité d'un gouvernement. Tu sais, souvent, les gens vont pas aller investir dans des pays où ils ne savent pas si vraiment là, ça brasse. Puis,
instabilité politique
exactement.
Et investissement, c'est...
Oui. Ça va pas ensemble.
Non, c'est ça. C'est moins tentant, effectivement. On va parler dans quelques minutes, justement, tu en as fait allusion, de tes nouvelles fonctions. Justement, voir un peu comment est-ce que qu'est-ce que ça change dans ton travail, mais aussi est-ce qu'il y a des avantages pour nous dans la région que notre député fasse ces travaux-là. Donc, on en rejase dans quelques minutes. 7h30, This Love Maroon 5. Petit bloc pub, puis on revient avec le député après.
Dans l'Est ontarien.
Ça part bien le matin.
Ça part bien le matin.
Jusqu'à 9h.
Go FM!
Et on est à 7h39 avec aujourd'hui une journée où on commence sous les averses, sous les nuages un peu. Ça devrait tout ça s'en aller de l'autre bord de la frontière du côté québécois. D'ici 8h30, 9h ce matin, là, les régions, le genre de ligne d'averse sera parti de l'autre bord. Un peu plus chaud aujourd'hui qu'hier. Hier, c'était pas super chaud. Aujourd'hui, on monte quand même à 14. Et c'est 6 degrés qu'on a en ce moment dans l'Est ontarien. Monsieur Sarrazin, vous êtes avec des nouvelles fonctions.
Absolument. C'était intéressant de voir ça. Avant, j'étais comme l'adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie. Puis évidemment, ben, je pense qu'en étant un des peu des francophones, parce que notre parti, le Parti conservateur qui est au pouvoir, on n'a pas beaucoup de gens qui sont vraiment natifs francophones. On a beaucoup de députés qui parlent en français. Mais vraiment, c'était vraiment intéressant là, de pouvoir représenter les francophones de partout l'Ontario. Puis là, en plus, avec mes deux tâche de pouvoir aider les entrepreneurs francophones, parce que là, on parle de développement économique, petites entreprises et ministère des Affaires francophones, donc ça va être intéressant. Je pense qu'on a beaucoup de choses, qu'on a plein d'idées, on veut faire des genres de tables rondes partout à travers la province, parce qu'on sait que nous ici, on a beaucoup, beaucoup de francophones, mais il y en a beaucoup de petites communautés isolées à travers l'Ontario, puis c'est ces gens-là qu'on va aller écouter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, justement, notre gouvernement, pour rendre les choses plus intéressantes pour opérer votre entreprise ici en Ontario. Fait que ça va être un beau défi, absolument.
Puis bon, tu as aussi toute la portion de la nouvelle loi sur les services en français. Exactement. Qui date de quoi maintenant? Ça fait pas si longtemps, là.
Non, ça fait pas si longtemps. Je pense que c'est un an passé. Puis ça faisait 35 ans auparavant que personne n'avait touché à ça. Donc
évidemment, ça amène une méchante différence dans la manière de faire les choses. Donc, c'est l'offre active, finalement. J'imagine aussi que si vous avez deux, trois chats à fouetter du côté du ministère des Affaires francophones à ce niveau-là.
Exactement.
Parce que c'est de l'artillerie lourde, là, ce que vous avez lancé. Mais surtout aussi, le changement, j'imagine, étant donné que c'est de l'offre active, donc dans les régions qui sont désignées comme étant des régions où on se doit de donner des services en français, comme ici, d'ailleurs.
Exact.
Où les gens, finalement, l'option français doit être là. Bonjour, hi, bonjour, ou peu importe, ça doit être fait dès le départ.
Non, puis écoute, je pense que moi, je dis toujours, autant qu'on continue à progresser dans nos services en français en Ontario, parce qu'on le sait, on n'est pas vraiment où on aimerait être par rapport aux services en français, mais on continue à progresser. Puis il y a eu un rapport récemment qui était sorti de M. Bouchard, de l'Ombudsman, qui disait que les gens sont un peu perdus là-dedans, si on fait des recherches pour justement qu'est-ce qui est disponible comme service en français. C'est un peu compliqué, mais écoute, encore là, c'est jamais facile. Hein, on le voit nous-mêmes, on va des fois sur des sites web juste d'une municipalité, on essaie de trouver quelque chose de spécifique. On dirait que l'information, c'est faut naviguer puis faut fouiller, mais on veut essayer de justement peut-être rendre ça plus facile aux Ontariens, à nos Franco-Ontariens, de pouvoir accéder à ces services-là.
Ben oui, puis t'as pas besoin d'aller de l'autre bord, là, puis... t'as pas besoin d'aller ben loin, mais moi, je trouve ça toujours fascinant que le site web des Comtés Unis d'SDG, quand même, qui a une communauté francophone importante, il n'y a rien en français. Bon, j'imagine que c'est pas important pour eux autres. Mais non, c'est ça. Fait qu'évidemment, il y a toujours... faut toujours se faire entendre. C'est pas fini. Cette nouvelle loi-là, je sais qu'elle a quand même été grandement saluée. Évidemment, les organismes franco-ontariens, je pense entre autres à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario ou des ACFO, entre autres, des fois, qui sont là pour vous talonner. Hein?
Oui.
Ils sont là pour vous talonner. Donc, j'avais quand même été surpris quand même de la bonne réception qu'il y a eu avec, justement, là... Que le gouvernement inclut vraiment tout ce qui est actif. Là.
Absolument.
Ça fait vraiment une différence. Et d'ailleurs, juste pour souligner, mais je voyais entre autres passer les policiers de la PPO qui ont intégré le drapeau franco-ontarien à leur écusson.
Absolument.
Justement pour montrer que je suis un policier francophone.
Là. Absolument. Puis je pense qu'en tant que franco-ontarien, on est tout un peu coupable de... Tu sais, souvent, on va aller au Tim Hortons, les gens vont nous dire... vont nous parler, adresser en anglais, puis on ne demandera pas, tu sais.
Souvent, ça part de là.
Donc, je pense que c'est important pour nous de dire... sans dire exiger, mais...
Sans manquer de respect,
sans manquer de respect, exactement, mais de dire, écoute, moi, je suis francophone, puis si je suis à Castleman, si je suis à Wendover, si je suis à Alfred au Tim Hortons, j'aimerais bien pouvoir me faire servir en français, qui devrait être juste quelque chose de...
Oui, oui.
De dire...
Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, c'est... Finalement, c'est pas tant de blâmer ou non le propriétaire du Tim Hortons. Nous, souvent, il fait de son mieux pour trouver
Absolument.
Des employés bilingues, puis c'est pas toujours facile, mais c'est juste sur le principe de... On a facilement le switch facile à l'anglais. Hein?
Oui, oui.
Ah, ben là, OK, c'est beau. Oui. Personne ne parle français. Puis là, tu switches à l'anglais, mais des fois, c'est ça. Des fois, ça aide pas non plus notre communauté quand on fait ça. Là.
Exactement. Puis il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie de main-d'œuvre est encore pire pour si tu cherches des gens qui offrent des services en français. Donc, si je regarde un exemple, tu t'en vas à l'hôpital Montfort, puis je me rappelle d'avoir été à l'hôpital Montfort pour une étude du sommeil. Puis le docteur ou le spécialiste qui était là me parlait en anglais. Mais je me dis, sûrement, aussi, hein? Ils ont fait tous les efforts possibles pour trouver un spécialiste, mais t'es mieux d'en avoir un qui va comprendre un peu le français puis qui va parler anglais que pas d'en avoir pantoute quand ça vient au service. Puis
ça tombe aussi au niveau du système de justice. D'ailleurs, on voyait, entre autres, plusieurs retards qui étaient liés au manque de juges francophones. Là.
Exactement. Puis on recherche encore des juges francophones. Je le sais, on parle souvent avec l'Attorney General de l'Ontario. Puis c'est vraiment... c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est fait du gouvernement. Puis souvent, moi, je dis toujours, les initiatives qu'on prend présentement, on va peut-être voir ça dans 6-7 ans. Tu sais, comme présentement, ils offrent des programmes pour justement des programmes de santé pour les francophones. On fait des partenariats avec les collèges français, avec les universités françaises pour essayer de justement avoir plus de gens, que ce soit dans le secteur... éducation dans le secteur, mais écoute, le secteur de la santé, là, si tu parles d'un docteur puis d'une registered nurse, il y a des chances que tu ne verras pas ça avant 5-6 ans, puis c'est ça. Fait que l'investissement d'aujourd'hui est plus pour demain, puis on a des belles choses qui se fait aussi avec les établissements postsecondaires pour justement avoir des enseignants, pouvoir former des enseignants francophones.
C'est intéressant. Puis pour nous, en tant que citoyens de la région, que le député qui nous représente soit dans ces postes-là,
absolument.
Les avantages peut-être, est-ce qu'on a des avantages?
Ben, je pense que oui. Puis écoute, on voit, j'ai tellement reçu de lettres de félicitations parce que les gens se disent... l'adjoint parlementaire de la ministre des Affaires francophones, c'est un franco-ontarien, le genre de franco-ontarien qui peut lâcher des mots dans son... quand il parle, c'est vraiment... il parle
avec
le franco-ontarien
passion.
Et pas le français parfait, puis c'est ça la réalité des franco-ontariens.
Avec passion.
Mais, exactement. Donc, ça va être vraiment intéressant. Tu sais, je pense que la semaine prochaine, j'ai une consultation avec la Fédération des gens d'affaires. On s'en va rencontrer des entrepreneurs à Sudbury, des entrepreneurs francophones. Puis donc, on est à l'écoute à savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gouvernement pour vous aider. Donc, je pense que ça va être super intéressant, puis ça va être super bien reçu de ces entrepreneurs-là francophones à travers la province. Absolument.
Parf.
Quelque chose en particulier? Ben écoute, je pense que j'aurais tellement de choses à jaser qu'on pourrait passer toute la journée ici.
Mettons quelque chose qui est pour la région, là, qu'on pourrait pas aller lire sur CP24 ou quelque chose comme ça.
Je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour la région. Puis on a vu les investissements du gouvernement. On a vu que notre gouvernement veut ouvrir un bureau à Ottawa pour mieux servir. Puis on voit les investissements qui s'en viennent. Puis sûrement, on va avoir des bonnes nouvelles, sûrement pour les municipalités qui ont appliqué justement. Éventuellement, on va avoir... pour les infrastructures, là, parce qu'on a presque 2 milliards qu'on offre aux municipalités de l'Ontario. Puis aussi, on parlait d'école. On a le double de financement cette année de projets d'école neuve.
Ouais.
Et moi, je m'attends que d'ici quelques semaines, on va avoir des très bonnes nouvelles à annoncer. Moi, j'ai confiance que notre projet d'école publique de Rockland...
fasse partie du plan.
Absolument, parce qu'écoute, on a le double des investissements habituels, puis je pense que juste dans la région ici de l'Est, je pense qu'on va annoncer près de 6-7 nouvelles écoles. Je te parle là, à Ottawa, Orléans, Carleton. Donc,
ça va. D'habitude, l'Est, est-ce que ça vient de Toronto, ça, l'investissement? Est-ce que le communiqué de presse est fait à Toronto? Parce que l'Est commence à Kingston, là, mais oui.
Je pense qu'on va avoir notre ministre d'Éducation. D'ici les prochaines semaines, on va avoir notre ministre d'Éducation qui va faire une tournée.
Okay.
Qui va aller probablement à chaque endroit où on va annoncer des écoles, puis...
c'est indéniable, pour
que,
de vrai.
Ouais,
c'est parce que, tu sais, c'est pas juste un caprice. Là.
Non,
c'est vraiment
absolument.
Quand tu regardes, puis j'en reviens sur ce que je disais tantôt. Tu regardes les chiffres, pas n'importe lequel, du recensement, c'est quand même fiable un peu. Là. ou l'endroit où on a vu le plus de croissance démographique au niveau des chiffres. Peut-être même pas besoin. Je suis regardé visuellement, tu le vois. Là. Mm. Allez sur Google Maps. Retournez 10 ans en arrière dans Rockland. Puis ouais, revenez c'est... aujourd'hui, c'est plus la même place.
Tu fais juste arriver c'est... par les chemins en arrière de Rockland, puis tu vois ça, tu te dis. Puis c'est la même affaire quand tu te promènes à Russell, puis tout ça, tu regardes, tu rentres dans les
projets. C'est les deux à Limoges, champions.
À Limoges, les projets de maison à Limoges, là, en arrière de leur nouveau complexe sportif. Là.
Oui.
Je regardais ça l'autre jour. Là. C'est incroyable. Là. Les chemins, puis les... tout ce qu'il est en train de faire pour. Avoir de la construction, là, c'est...
Donc, la bonne nouvelle dans ce que vous venez de dire, c'est que on pourrait avoir des bonnes nouvelles pour un certain groupe citoyen du côté de Rockland. Parfait.
Absolument.
L'autre chose, finalement, je vais prendre la balle au bon sur les investissements au niveau des infrastructures, parce qu'encore deux semaines dernières, on a les maires des Comtés-Unis, des SDG, dans leur réunion conseil qui... tenaient encore à faire entendre leur point auprès de la province sur les transferts provinciaux, justement pour subvenir aux besoins des gouvernements municipaux, des gouvernements de paliers supérieurs, la voirie, les services de police et les investissements en infrastructures, évidemment. Puis tout pour se conformer aussi aux nouvelles normes provinciales. Et on pointait du doigt le fait justement qu'on voulait amener à la prochaine réunion de l'Association des municipalités de l'Ontario ce besoin-là des municipalités.
Absolument. Puis écoute, j'ai été maire, moi, puis je sais que les municipalités, aujourd'hui, tu dois offrir des services, puis tout coûte cher. Puis c'est très difficile. On le voit, les budgets à chaque année, on pourrait pas augmenter les taxes. Tu sais, si une municipalité augmenterait les taxes d'une résidence de 500 $ par année, les gens... mais en même temps, hein, faut penser à... c'est toujours le même payeur de taxes. Que les taxes, que l'argent vienne de la province, qu'elle vienne du fédéral, qu'elle vienne du municipal, il y a toujours juste un payeur de taxes, puis c'est le même qui paye ça. Puis nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est vraiment d'investir à créer des meilleures conditions pour justement attirer des entreprises que eux vont générer plus d'argent. Puis là, ben, on va être en mesure de justement avoir une économie plus forte puis pouvoir aider les municipalités. Mais c'est sûr qu'on aimerait bien, en tant que gouvernement, donner 10 % d'augmentation à tout le monde par année. Puis tout le monde voudrait avoir plus. C'est dans notre nature. Mais en même temps, si on veut garder un coût de la vie puis on veut garder ça abordable, faut justement être fiscalement responsable. Puis, tu sais, je disais ça souvent présentement, puis je l'ai dit l'autre jour, juste qu'est-ce qu'on paye en dette, d'intérêt de dette. Si on regarde au fédéral, si j'ai bien entendu l'autre jour, 54 milliards.
C'est, en fait, pour faire une image plus précise, là, tout ce qui est par année perçu par le gouvernement fédéral de la TPS. Donc, quand vous payez vos taxes de vente, là, la fameuse TVH ou GST, il y a un pourcentage qui s'en va à M. Sarrazin et l'autre pourcentage, 5 % s'en va au gouvernement fédéral. Et ce 5 %-là, évidemment, c'est la grandeur du pays. Tout l'argent qu'on ramasse avec ça ne sert qu'à payer les intérêts sur la dette, donc 54 milliards.
C'est triste voir ça. Tu sais, 54 milliards par année, c'est 1 milliard par semaine, ça. Donc, ce milliard-là pourrait être investi dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Puis, tu sais, je le dis toujours.
En transfert aux provinces.
Ceux-là qui ne se rappellent pas c'est quoi 1 milliard, ben c'est 1000 millions. C'est beaucoup d'argent, tu sais. Donc, puis nous aussi, la province, je veux dire.
C'est cash for life, finalement.
Ouais, absolument. Donc,
au lieu d'être 1000 piastres par semaine, c'est 1 milliard par semaine.
Ouais, c'est vraiment... je pense que tu sais on doit être fiscalement responsable puis éventuellement essayer de retrouver... essayer de balancer ça parce que ça peut pas continuer.
OK, ben là, vous mettez les deux pieds dedans, donc on va y aller. Niveau fédéral, donc justement, le budget qui a été dévoilé avec un déficit... qu'on s'est dit, finalement, on était fiers de ne pas avoir dépassé le 40 milliards du côté fédéral. Certaines mesures, d'ailleurs, qui ont été décriées par certains sur le gain à capital, quelques changements là. Mais sur le principe, justement, des déficits. Et surtout, moi, mon grand questionnement, c'est les provinces, les premiers ministres provinciaux, dont fait partie Doug Ford, évidemment, dans ce regroupement-là, demandent des transferts plus élevés aux provinces. Du côté fédéral, on n'est pas trop là-dedans. On est plus dans la livraison de programmes avec des conditions.
Exactement, ça peut venir
compliqué.
On a
une levée de bouclier un peu pour certains premiers ministres provinciaux qui disent, parlent d'ingérence d'Ottawa. Un peu votre perception de ça?
Mais je pense que le gouvernement fédéral devra être à l'écoute des premiers ministres. Quand tu dis que tu as les premiers ministres de toutes les provinces de l'Ontario qui s'en vient à toi en tant que premier ministre du Canada, puis qui dit « Hey, regarde, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. » Puis on le voit, tu sais, je pense que si on parle de la taxe de carbone présentement, si tu parles à qui que ce soit à propos de la taxe de carbone, ils vont dire que c'est quelque chose qui nuit, c'est quelque chose qui fait en sorte que le produit sur la tablette au magasin est plus dispendieux, puis ceux qui le comprennent pas, c'est pas très difficile à comprendre. Tu sais, on parle du cultivateur dans le champ ou qui fait sécher son grain, que son gaz naturel, des taxes de carbone. Fait que c'est toutes des choses que le gouvernement doit être à l'écoute. Puis écoute, un gouvernement qui est pas à l'écoute des gens, ben je me dis c'est un gouvernement qui sera pas réélu. Tu sais, tu dois être là pour représenter les gens. Puis nous, peut-être que la réalité est différente dans les grandes villes, mais nous ici, j'ai pas une personne en milieu rural qui me dit pas que la taxe de carbone, c'est bon, là. Tout le monde me dit...
On dit, du côté fédéral, ce qu'on répète souvent, c'est que les gens en retirent plus que ce qu'ils en payent. Votre réaction par rapport à ça?
Ben moi, là, j'ai pas vu ça dans mon compte, Thomas, à moi. J'ai pas vu que j'en ai retiré plus. Je sais pas, vos deux ici, si vous avez retiré plus que vous avez payé de taxes de carbone. Puis c'est dur à mettre un prix sur qu'est-ce qu'on a payé à comme taxes de carbone parce que, écoute, ça reflète sur tous les produits. Tu sais, ça va sur le transport de la marchandise. Ça s'ajoute sur votre facture d'électricité, sur votre facture de gaz naturel, sur tout. De dire que, je sais pas, moi, 1 000 par année qui est remis. Puis si vraiment, du côté entrepreneur, on parlait justement de ça en chambre la semaine passée, je pense que le gouvernement fédéral avait dit aux entrepreneurs canadiens, vous allez avoir des restournes pour la taxe de carbone. Puis juste au Canada, juste en Ontario, le gouvernement fédéral doit 1,3 milliard aux petites entreprises. Donc, ce 1,3 milliard-là, c'est de l'argent qui aurait pu être réinvesti. Là. Si les entreprises l'auraient, cet argent-là, ils pourraient réinvestir. Puis justement, les temps sont difficiles. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait face aux années de pandémie puis qu'ils commencent juste à essayer de se rattraper. Donc, cet argent-là, ça serait vraiment utile pour eux présentement à réinvestir dans leur compagnie, faire en sorte que... ils peuvent prospérer là, en tant qu'entrepreneurs.
Et payer du gain capital par après.
Et voilà!
terminé, M. Sarrazin, là-dessus, j'ai reçu un texto de Suzanne qui dit « Serait-il possible de souligner la Journée nationale des médecins en Ontario, s'il vous plaît? » Ben oui!
Absolument, puis je dois dire que j'ai une rencontre cet après-midi avec des médecins. Puis,
OK, parce que là, ça l'aide. Ma dernière question, M. Sarrazin, excuse-moi de te couper, mais c'est juste qu'on a vu encore cette semaine... ou en fin de semaine passée, je me souviens plus, le temps des fois, il me manque. Finalement, ce qu'on nous paye du côté provincial pour exercer certains, soit de voir un patient ou encore de faire certaines interventions versus ce que ça coûte au niveau des cabinets, d'avoir son cabinet, puis de payer son personnel médical, puis le loyer, puis le ci, l'électricité. Puis, finalement, ça ne suit plus, là.
Absolument.
Il y a plusieurs médecins de famille qui disent « Vous savez quoi? Nous, ça vaut plus la peine, puis on s'en va, on fait autre chose. »
Puis c'est notre job à nous, en tant que députés, de rencontrer justement ces médecins-là puis ces équipes de santé, puis que ce soit n'importe quel secteur. On est souvent en communication avec nos hôpitaux, puis de ramener ça à notre justement à notre ministère de la Santé, puis de dire « Écoute, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? » Faut dire que c'est très difficile, hein, parce que souvent, c'est pas juste l'argent qui règle tout. On fait des investissements records en soins de santé, puis on investit dans bâtir des hôpitaux dans la province. Honnêtement, là, si tu regardes les investissements qui sont faits, c'est des investissements records, mais en même temps, l'argent, c'est pas tout. Ça prend les ressources, ça prend les gens, puis souvent, c'est ça qui est le problème. Les ressources sont pas là, on n'a pas les gens pour faire l'ouvrage, donc ça...
Ouais, puis on peut difficile. Faire du... Quand on parlait de francophonie tantôt, par exemple, former des infirmières ou des médecins...
Puis imaginez-vous...
C'est
là,
pas un cours d'après-midi. Là.
Nous, on est une province qui réussit bien au Canada. Fait que vous pouvez vous imaginer les autres provinces. Puis souvent, je vois qu'on est chanceux d'avoir des instituts comme l'Université d'Ottawa. Il y a des gens qui viennent de partout à travers le Canada, viennent étudier là, puis souvent demeurent ici par la suite. L'autre jour, je parlais à des gens à l'hôpital général d'Ottawa. Il y avait trois jeunes médecins. Puis une venait de la Colombie-Britannique, l'autre venait de, je me rappelle plus où, ailleurs au Canada. Puis, tu sais, je regardais ça, ces gens-là sont probablement ici pour rester, là.
Fait qu'on ouais, ils viennent est vraiment ici, chanceux peut-être pour étudier, ces... mais ça prend pas de temps qu'il y a des... Il y a plus de chances qu'ils restent que qu'ils s'en aillent. Là.
Parce qu'on le voit, hein, tu sais, aux nouvelles, au Québec, là, on voyait, il y avait des spécialistes qui traversaient pour venir travailler en Ontario parce que c'était comme 30 000 $ par année de plus. Donc, je me dis, faut pas, on peut se consoler à dire qu'on réussit bien en tant que province, mais il faut continuer à travailler justement à avoir ces ressources-là puis faire en sorte qu'on peut avoir les ressources nécessaires pour avoir des gens qui allent étudier, puis on a plein de,
ouais.
De beaux...
Oui, parce que l'accessibilité aux médecins de famille n'est pas toujours évidente. Là, parlez-en à ceux qui, justement, sont sur des listes d'attente puis me disent... Ben, pas de médecin. Coudonc, on va l'attendre à l'urgence. Ou... Puis ça, je vous parle d'Ontario. Là. On attend tout le temps ça au Québec. Au Québec, c'est tout à fait normal.
Ça fait 10 ans qu'on n'a pas de médecin de famille au Québec.
Ouais. Ben, au Québec, c'est quelque chose qui est là, ça fait 30 ans là, que le monde n'a pas de médecin de famille. Mais en Ontario, ça commence à être plus difficile. Puis là, le monde appelle les cliniques. Puis non, on prend plus personne, on prend plus personne. Puis finalement, tu te ramasses à Apple Tree. Puis merci, c'est ton seul choix. Là.
C'est sûr que la croissance, c'est beau. C'est un problème aussi, tu sais, on le voit, là, ça met de la pression sur tout le système de santé, le système d'éducation, les infrastructures, donc c'est un beau problème qu'on a quand on voit que les gens veulent venir demeurer en Ontario parce qu'on est une province qui prospère économiquement et tout ça, mais c'est des défis, absolument. Oui,
effectivement. 8h05, M. Sarrazin, un gros merci d'être venu nous jaser ce matin, plaisir. Toujours un réel plaisir, puis t'es attendu n'importe quand. Tu reviens faire un tour.
Super.